Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 1er février, un peu moins de pénurie sur les vaccins dans les prochaines semaines. BioNTech et Pfizer promettent jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires en Europe pour le deuxième trimestre. Les restaurateurs qui braveront l'interdit seront sanctionnés. Ceux qui serviront des clients seront privés du fonds de solidarité, annonce de Bruno Le Maire ce matin, le ministre de l'économie sur RTL. Nous serons en ligne avec des frondeurs. Le martyr du petit Tony devant les assises de la Haute Marne. Le beau-père de l'enfant de 3 ans comparaît pour l'avoir battu à mort, sa mère pour l'avoir laissé faire. Dans RTL Midi aussi, la journée de tous les dangers pour le foot français avec le nouvel appel d'offres destiné à réattribuer les droits télé de la Ligue 1. Et puis cette info RTL, il n'y a plus de dauphins au parc Astérix, ils ont été transférés en Suède et en Espagne. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
On a toujours un peu les pieds dans l'eau quand
oui,
même.
Oui, un peu les pieds dans l'eau, surtout dans la moitié sud, c'est là où les pluies sont les plus fortes, les plus continues. Alors ça concernera toutes les régions de l'Aquitaine, Massif central, aux Alpes, ça se transformera en neige au-delà de 1500 ou 1600 mètres, avec toujours un fort risque d'avalanche en montagne, risque d'inondation dans le sud-ouest autour du Massif central ou encore dans l'extrême nord. La moitié nord, on aura là aussi beaucoup de nuages, mais des précipitations un peu plus dispersées. N'oubliez quand même pas le parapluie. Mmh. Il n'est tout près de la Méditerranée où, avec un peu de chance, on aura quelques éclaircies. Le vent sera également de la partie, 80-90 km/h de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée, un peu moins fort au nord de la Loire. Et les températures, en revanche, relativement douces, en tout cas pour la période. 6 à 9 degrés au nord de la Seine et dans le nord-est, entre 10 et 12 degrés dans les autres régions de la moitié nord, et de 12 à 17 degrés quand même dans la moitié sud.
La question du jour sur RTL.fr, Emmanuel Macron a-t-il eu raison de ne pas reconfiner? Vous êtes 58% à nous dire oui, il y a 32% de non. Témoignez, argumentez au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
J'ai confiance en nous, bonjour, j'ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales, faisons tout pour freiner l'épidémie. Ce sont les mots écrits sur Twitter par Emmanuel Macron. Vous pourrez bien sûr réagir. Comprenez-vous les restaurateurs qui ouvrent à l'heure du déjeuner aujourd'hui? Est-ce que vous soutenez leur coup de gueule? Vous pourrez réagir également aux graves incidents qui ont eu lieu à la commanderie samedi, les supporters qui sont déchaînés, pas qu'à Marseille d'ailleurs, aussi à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Nantes, et puis Barbara Pravi qui représentera la France à l'Eurovision au mois de mai. Est-ce que vous aimez cette chanson, voilà voilà, qui a des intonations peut-être d'Edith Piaf? Et ce sera l'occasion de réécouter Marie-Myriam comme chaque année depuis 1977. Et sans doute peut-être en...
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Les taux se desserrent un peu sur les vaccins. BioNTech et Pfizer accélèrent et promettent jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires en Europe au deuxième trimestre. Les livraisons vont augmenter à partir de la semaine du 15 février. Virginie Garin, qu'est-ce que ça va changer pour nous ici en France ?
Eh bien, à relancer la campagne qui connaît un trou d'air depuis 15 jours. Les personnes qui ont droit au vaccin l'ont constaté, il n'y a presque plus de rendez-vous possible sur Internet. Et quand elles appellent les centres, on leur dit pas avant mars. Alors la France a déjà reçu 2 600 000 doses depuis fin décembre qui ont permis de vacciner un peu moins d'1,5 million de personnes. Le stock restant va servir à continuer d'honorer les rendez-vous déjà pris et à commencer les deuxièmes injections. Les laboratoires ont tous pris du retard, mais compte tenu des dernières annonces et notamment de Pfizer qui compte finalement livrer ce qui était prévu en février, eh bien la France devrait avoir vacciné d'ici à la fin du mois 2,5 millions de personnes. On est loin des 4 prévus par le gouvernement. Cela dit, le retard pourrait être rattrapé assez vite car Pfizer va augmenter sa production. D'autres vaccins vont arriver sur le marché. La campagne devrait s'accélérer avec toutefois un changement des publics vaccinés puisque l'AstraZeneca peut être moins efficace chez les personnes âgées. Il pourrait être réorienté vers le personnel médical plus jeune et les personnes de moins de 65 ans atteintes de maladies graves.
Virginie Garin, le géant de la pharmacie Bayer, affirme qu'il va produire dès l'année prochaine le vaccin développé par son compatriote CureVac. L'objectif, c'est une production de 160 millions de doses. Faisons tout pour freiner l'épidémie ensemble, a donc dit Emmanuel Macron sur Twitter. Un appel à la responsabilisation générale pour éviter un reconfinement. Et la fronde de certains restaurateurs ne passe pas. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé ce matin sur RTL des mesures de rétorsion pour ceux qui ouvriraient malgré l'interdiction.
Tous ceux qui restent ouverts, à partir du moment où ils font ce choix de ne pas respecter la règle, seront suspendus pendant un mois de l'accès au fonds de solidarité. Et si jamais il y a récidive, ils n'auront plus accès du tout au fonds de solidarité. Mais c'est quelques cas isolés en France. Je ne veux pas que ça se répande, que ça devienne soit une habitude, soit une façon de braver l'interdit. C'est pas un interdit, c'est une règle collective pour garantir la santé de tous.
Bruno Le Maire interrogé ce matin par Alba Ventura sur RTL et dans quelques minutes nous serons en ligne quand on le pourra avec Stéphane Manigold, le porte-parole du collectif Restons Ouverts. En Savoie, plus d'une centaine de saisonniers ont installé ce matin un barrage filtrant sur l'autoroute A43 au niveau de l'accès au tunnel du Fréjus. Ils demandent l'ouverture des remontées mécaniques et plus d'aide et espèrent être reçus par Emmanuel Macron. La France a fermé ses frontières aux pays extérieurs à l'Union pour restreindre la circulation du virus et les voyages touristiques à destination de la Polynésie française sont suspendus à partir de mercredi. Seuls seront acceptés des déplacements pour motifs familiaux, sanitaires ou professionnels avec des justificatifs. C'est un coup dur pour le tourisme local. Édouard Philippe testé positif au Covid d'après son entourage. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui maire du Havre, se porte bien, paraît-il. Il s'est isolé et travaillera depuis chez lui. Une pause et dans un instant, le calvaire d'un enfant de 3 ans.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
On n'en sait plus sur le périple meurtrier du tueur de Valence. C'est bien cet homme qui a tenté d'assassiner un DRH mardi soir en Alsace. La procureure de Mulhouse vient de faire le point sur l'enquête, Yannick Collant.
Oui, la procureure de Mulhouse a salué le comportement du DRH rescapé qui a permis de récolter l'ADN du suspect. Cette victime a fait face au tueur lorsque son arme s'est enrayée.
Il l'a poursuivi. Il a réussi à le rattraper. Il y a eu une sorte de rixe entre eux. Il a réussi à lui arracher son masque. Il lui a réussi à lui arracher ses lunettes également qui sont tombées. C'est un ADN unique qui a été relevé à la fois sur la paire de lunettes et sur le masque chirurgical qui ont permis effectivement de faire un lien avec le double assassinat pour lequel le procureur de Valence a été saisi.
Autre élément, le DRH rescapé se souvient parfaitement de ce suspect, un ingénieur qu'il avait personnellement licencié en 2008. Ce n'était pas dans le cadre d'un plan social.
Notre victime a très rapidement, à l'annonce du nom de celui qui avait été arrêté à Valence, fait le rapprochement, puisqu'il y avait eu un licenciement qu'il avait lui-même directement notifié à cette personne. Vraisemblablement, ça n'était pas dans le cadre d'un plan social. C'était un licenciement individuel pour faute.
Et maintenant que ce lien est établi, le parquet de Mulhouse devrait prochainement être dessaisi de l'enquête au profit du parquet de Valence pour l'ensemble de ce périple meurtrier.
Yannick Collant, correspondant RTL en Alsace. L'épouvantable calvaire du petit Tony, cet enfant de 3 ans qui a été battu à mort. Ce matin, s'est ouvert devant les assises de la Marne le procès du compagnon de sa mère, jugé pour l'avoir frappé, tandis que la mère comparait, elle, pour non-dénonciation de crime. Anne Le Hénaff, vous êtes au palais de justice de Reims, où l'on découvre un huis clos de violence inouïe pendant la dernière semaine de la vie de l'enfant.
Oui, pendant 6 jours exactement, Tony a notamment eu le nez cassé par un coup de poing de son beau-père et la lèvre fendue. Il a reçu plusieurs coups de poing au ventre. Il ne mangeait plus. Sa mère ne l'envoyait plus à l'école. Elle a prétexté une gastro-entérite. Aux policiers qui l'ont entendu en garde à vue après le décès de l'enfant, elle a d'abord raconté qu'elle ne se rendait pas compte de la gravité de l'état de Tony, puis qu'elle a eu peur de l'emmener chez le médecin, peur de ne pas pouvoir expliquer ses traces de coups, peur de perdre la garde de l'enfant et par amour aussi pour son nouveau compagnon qui punissait donc Tony parce qu'il ne rangeait pas sa chambre. La cour s'intéresse particulièrement à son rôle à elle. Pourquoi n'a-t-elle pas donné l'alerte plus tôt? Était-elle sidérée, effrayée par toute cette violence? Solidement posée sur son banc, la jeune femme écoute sans broncher. Elle risque 5 ans de prison. Derrière elle, dans son box en verre, l'auteur des coups écoute aussi, massif, silencieux, un coup de taureau et un crâne rasé. Je reconnais les faits, a-t-il dit au début de son procès. Lui, en cours, 30 ans de réclusion.
Anne Le Hénaff en direct du palais de justice de Reims pour RTL. Le marché automobile reste fragile, une baisse de 5,85% au mois de janvier. Les marques françaises sont à la peine, moins 10% pour Peugeot, moins 20% pour Renault, moins 21% même pour Citroën. Seule Dacia s'en sort avec la livraison de sa nouvelle Sandero, la voiture la moins chère du marché. Et pourtant, il y a des secteurs qui embauchent. Le Parisien aujourd'hui en France avec RTL publie aujourd'hui un supplément sur les recrutements région par région. L'entreprise de transport Keolis, par exemple, va recruter 7000 personnes, du conducteur de bus en passant par la mécanique ou des postes dans l'administratif. L'opérateur cherche de nouveaux collaborateurs dans toute la France. Reportage à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis, Arnaud Touche.
À bord de son bus, Yessa Keïta, 26 ans, a le sourire sous son masque et pour cause, elle vient d'obtenir un CDI.
J'en ai signé un, c'était exactement le 11 janvier.
Et la jeune femme mesure sa chance.
Je me sens chanceuse parce que je sais qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'amis qui galèrent à trouver du travail. Non seulement en intérim, mais alors en CDI. Pour avoir un CDI, c'est encore pire.
Jusqu'au mois de mai, elle était au chômage et travaillait auparavant en tant qu'animatrice avant d'être en intérim pour devenir conductrice.
Faut oser, faut pas se dire que ça va être difficile ou se dire que c'est par exemple un métier masculin ou quoi. Il faut se lancer. Tant qu'on aime, en fait, il faut se lancer.
Et dans la salle de pause, on affiche même fièrement chaque mois les noms des nouveaux embauchés, comme des centaines d'autres en France.
Nous offrons environ 7000 emplois par an.
Bruno Danet est le DRH de Keolis France.
Nous avons des candidats qui viennent d'horizons beaucoup plus divers qu'avant, ce qui nous a amené d'ailleurs à revoir nos processus de sélection en s'appuyant plus sur les compétences, les aptitudes comportementales et l'envie plutôt que sur le niveau de formation ou sur l'expérience.
Conducteur, technicien de maintenance ou régulateur, l'entreprise recherche en permanence de nouveaux collaborateurs et collaboratrices.
Merci Arnaud Touche. Il n'y aura plus de fonds de solidarité pour les restaurants qui braveront l'interdiction d'ouvrir. Vous avez entendu tout à l'heure le son de Bruno Le Maire qui a fait ses annonces et qui était prêt à suspendre le fonds de solidarité. C'était ce matin sur RTL. Un restaurateur de Cusance dans le Doubs a décidé d'ouvrir à midi. Il a d'ailleurs reçu plusieurs milliers de soutiens sur les réseaux sociaux. Stéphane Manigold, cette fois, on vous a retrouvé. Le porte-parole du collectif Restons Ouverts est avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour RTL, bonjour tout le monde.
Oui, on a eu des petits problèmes de liaison. Vous êtes sur place, vous. Alors finalement, ce restaurant a renoncé à rouvrir, c'est ça ?
Non, il est ouvert, mais dans le respect de la loi. Et la loi nous autorise à faire de la vente à emporter. J'ai pris la route hier pour venir voir Stéphane et lui dire, Stéphane, il y a un 1er février, mais il n'y aura pas de 2 février si tu ne respectes pas les règles. Et on a passé une nuit blanche à appeler tous les restaurateurs, les 280 qui avaient voulu braver cette interdiction, parce que nous sommes dans le dialogue, dans le collectif Restons Ouverts, on est dans les propositions. Et au fond, c'est, je comprends son cri du cœur. C'est une déclaration d'amour auprès de nos clients. C'est une déclaration où, en fait, vous nous manquez terriblement. Mmh. Mais pour qu'on puisse demain vous recevoir à nouveau à nos tables, eh bien, il faut qu'on puisse ouvrir ou réouvrir, mais de façon conforme à la loi. On n'appelle pas l'insurrection. On n'appelle pas la désobéissance civile.
C'est ça.
C'est pas ce qu'on sait faire. Nous, on sait cuisiner et donner de l'amour à nos clients. Et une belle pensée à tous les loisirs qui sont fermés aujourd'hui. Tous nos agriculteurs, nos vignerons, nos artisans fermiers, on vous aime et vous nous manquez.
Donc, pour vous, la ligne rouge, clairement, Stéphane Manigold, c'est la désobéissance civile. Hein. On est clair là-dessus.
La ligne rouge, j'ai écouté ce matin Bruno Le Maire oui. À votre antenne. Mais vous savez, hier, quand on a fait le choix, on sentait bien qu'il y avait une urgence et que Stéphane, il allait s'immoler seul dans son coin. Il est très soutenu, effectivement, par les réseaux sociaux où les gens lui disent qu'il faut le faire. Eh bien, moi, j'ai préparé des sous-locations de nos établissements pour toutes celles et ceux qui se cachent derrière leur écran et disent « vous n'êtes pas courageux ». Mais signez une sous-location et ouvrez-vous et vous allez voir les sanctions qu'on met sur terrible. Il ne s'agit pas de rajouter des drames à des situations qui sont déjà terribles économiquement pour tout ce secteur des loisirs. C'était parfaitement irresponsable que de derrière prendre une fermeture et mourir définitivement. Stéphane, c'est un bon chef, il fait des frites absolument merveilleuses. La saison des grenouilles arrive, il va pas pouvoir le faire. Et je comprends que lui, ici, avec 70 habitants, il peut pas faire de click and collect, alors que nous, à Paris, on a 2 200 000. Je pense que je vais lui mettre un de mes restaurants à disposition, à Paris, pour qu'il puisse faire du click and collect que la saison de la grenouille, eh bien, il puisse nous en faire profiter à Paris.
Oui. Le ministre de l'économie expliquait donc ce matin sur RTL que c'est pas un interdit, hein, cette question d'ouverture, mais une règle collective pour garantir la santé de tous. Vous avez une responsabilité collective.
Bien sûr. Et il faut que le pays s'unisse maintenant. Parce qu'on en a marre de ces confinements, couvre-feu, etc. Et tout le pays s'unisse derrière le chef de guerre. Vous savez, je peux avoir de profonds désaccords avec le président.
Vous voulez dire derrière Emmanuel Macron ?
Oui, oui, il faut. Et pourtant, c'est moi qui vous le dis, je peux vous assurer que sur les réseaux, je ne suis pas tendre avec lui.
Non, je sais.
Il faut qu'on lutte.
Et pas que sur les réseaux, à la radio aussi.
Et à votre antenne. Mais là, maintenant, stop. Ça suffit. Le pays, on aime ce pays. Vive la France. Nous aimons ce pays. Nous aimons, en tant que Français, notre patrimoine, notre terroir. Mais maintenant, il faut que ça s'arrête, que les guéguerres politiques s'arrêtent, que les guéguerres et les conflits s'arrêtent et qu'on se mette tous derrière en Heure de Marche, mais que lui nous écoute aussi. Parce que ça, ça c'est mon rôle aussi, de le faire entendre, grâce à vous, grâce aux médias, par médias interposés, la colère de celles et ceux qui souffrent. Ouais. Et je sais, et je remercie Sylvain, qui est d'un des collaborateurs d'Alain Griset, le pauvre, je l'ai tous les jours, de 7h du matin à pas d'heure. Je le remercie parce qu'il nous aide beaucoup.
Voilà, l'écoute d'un côté, la solidarité de l'autre. Merci d'être intervenu sur RTL, Stéphane Manigold, porte-parole du collectif Restons Ouverts et qui accepte de rester fermé, justement. Coup d'État en Birmanie, l'armée a proclamé l'état d'urgence pour un an, placé ses généraux et arrêté l'emblématique Aung San Suu Kyi, un putsch condamné par l'Union européenne, la Chine ou encore la France, qui appelle à ce que le vote des Birmans soit respecté. La dame de Rangoon, à 75 ans, a laissé un message avant son arrestation demandant aux Birmans de ne pas accepter ce coup d'État. Dans un instant, le foot français qui espère renflouer ses caisses avec les droits télé.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
C'est une journée cruciale pour l'avenir des clubs de foot français avec la réattribution des droits télé de la Ligue 1 après la défection de Mediapro. Les opérateurs intéressés avaient jusqu'à midi pour déposer leurs offres. Christian Olivier et Canal+, on vient de l'apprendre, boycott.
Et c'est un premier coup de théâtre.
Ça commence bien.
Oui, révélé par le quotidien L'Équipe et d'ailleurs que nous sommes en mesure à l'instant même de vous confirmer. Information L'Équipe, confirmation RTL. Pas de Canal et pas d'actionnaire Vivendi pour cet appel d'offres. N'ayons pas peur des mots, c'est un véritable boycott, car vous le savez, Vivendi et Canal sont en conflit avec la Ligue du foot professionnel à propos de la remise sur le marché de ces deux matchs qui lui appartiennent. Ce groupe est en frontal avec les dirigeants du football français. Ce litige d'ailleurs se jouera peut-être devant les tribunaux. Vincent Bolloré, propriétaire de Vivendi, et Maxime Saada, président du groupe Canal, vont donc jusqu'au bout de leur affrontement. Alors depuis 45 minutes maintenant, eh bien c'est un comité de pilotage qui examine les résultats sans Canal de cette consultation autour de Vincent Labrune, quelques présidents de clubs. Labrune qui était au Qatar il y a quelques jours de cela, berceau du groupe Bein, ce qui n'a rien peut-être d'innocent. Actuellement, vous l'avez dit, ce comité analyse les offres qualitatives. Quel diffuseur donc, sans Canal, répétons-le, à 16h, analyse des offres quantitatives, combien de millions d'euros sur la table, et à 18h, présentation des recommandations de ce comité de pilotage au conseil d'administration de la Ligue. Qui sortira du chapeau? Eh bien, peut-être personne, et le football français ne serait pas alors au bout de ses peines, à moins ensuite qu'il y ait une négociation de gré à gré, mais c'est une autre histoire. Mmh.
Pour aller plus loin, nous sommes avec Pierre Maes, consultant en droit sportif. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça change, la défection de Canal+?
Oh ben, ça change pas grand-chose. C'est pas une grande surprise. Hein. Canal+, ayant introduit deux recours contre l'appel d'offres, ça aurait pas été très cohérent, finalement, de leur part d'y participer. Donc, cet appel d'offres n'est pas considéré comme quelque chose qui va changer fondamentalement ce qui est en train de se passer. C'est plus une péripétie, presque une anecdote. Sauf surprise improbable, les résultats de l'appel d'offres seront médiocres ou en tout cas en deçà des attentes et des prix de réserve fixés par la Ligue et les clubs. Et donc, on reviendra à des discussions de gré à gré entre Canal et la Ligue.
On était de toute façon arrivé à quelque chose d'intenable. Hein. Le foot français ne vaut pas 1,2 milliard d'euros.
Alors, c'est intéressant que vous posiez cette question parce qu'il y a une grande confusion, en fait. C'est quelque chose que j'essaye d'expliquer dans mon livre. En fait, la valeur des droits TV n'est pas fixée par le prestige des joueurs qui y jouent, par les performances des clubs en Coupe d'Europe. Non. Le seul critère de la valeur des droits TV, c'est la concurrence qui se joue entre les opérateurs pour les acquérir.
Oui.
Ce qui a fait grimper les prix en France depuis 2012, finalement l'arrivée de Bein, pour arriver à des sommets incroyables aujourd'hui. Mmh. On entre 2018, date du dernier appel d'offres de la Ligue, et aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui s'est passé? La concurrence est revenue à rien.
Aujourd'hui, oui, c'est-à-dire aujourd'hui, ils ne se bousculent pas les opérateurs pour acheter les droits télé. Ah, il y a Christian Olivier qui a une question pour vous.
Et peut-être une information, mais qui reste à confirmer, monsieur. Quatre enveloppes, donc quatre candidats, quatre enveloppes auraient été déposées ce matin. Quatre enveloppes, quatre candidats, dont un étranger. Alors, quand on parle de candidats étrangers, on pense évidemment à Amazon.
Oui, Pierre Maes.
Oui, alors quatre enveloppes, oui, pourquoi pas, je sais pas très bien, je pense qu'ils ont 4 heures pour les analyser, analyser les offres qualitatives, puis 2 heures pour les offres quantitatives. Je sais pas très bien. Ils risquent de s'ennuyer un petit peu. Maintenant, effectivement, Amazon a été brandi. Enfin, c'est plus une stratégie d'intox un peu basique qu'on a vu dans ce business depuis des années, qui est d'essayer de faire peur aux diffuseurs en place en disant attention, Amazon est là, attention, Facebook va arriver, attention, Dazon, attention ceci, attention cela. On sait très bien que Amazon est très, comment on va dire, minutieux sur ses investissements dans le sport, même s'il s'agit du GAFA qui investit de manière la plus significative en Europe. Il est très minutieux et on le voit mal, en fait.
C'est pas Amazon qui va remplacer Mediapro et faire une offre avec un gros carton. Sur le fond, juste une question. Les téléspectateurs amateurs de foot ne veulent plus payer d'abonnement. Si on voulait tout voir, là, ça revenait à presque 100 euros par mois. Est-ce que vous avez le sentiment que les téléspectateurs veulent plutôt une offre à la carte, aujourd'hui, match par match ?
Moi, je crois surtout que ce que les fans et les téléspectateurs veulent, c'est une offre simple, pas chère et complète. On parle souvent de la musique et de Spotify et de Deezer, et c'est vrai que c'est un bon exemple qui montre en fait ce que le fan veut. Aujourd'hui, les offres qui sont sur le marché, qui sont peu lisibles, qui aboutissent à une superposition d'abonnements extrêmement, des solutions extrêmement onéreuses, ça ne convient pas aux fans et ça pousse les fans vers le piratage.
Merci beaucoup, merci Pierre Maes. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Le business des droits télé du foot. Le parc Astérix n'aura pas joué les Gaulois réfractaires, au contraire. Il y a une semaine, il annonçait mettre fin au spectacle avec les dauphins pour se conformer à la future loi. D'après nos informations RTL, tous les mammifères sont partis depuis hier, transférés vers la Suède ou l'Espagne. Nicolas Kremer, le directeur du parc Astérix, nous le confirme.
Aujourd'hui, on est surtout dans l'émotion et la tristesse, en fait. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais couper court à un bruit qui se dit que nos dauphins ont été vendus, ce qui n'est absolument pas le cas, bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui est totalement interdit. Nous avons une femelle qui s'appelait Femke, qui était malade depuis maintenant 4 ans. Malheureusement, son état a continué à se dégrader. Donc, on a accompagné sa fin de vie avec l'ensemble des soigneurs du parc. Alors, les delphinariums où on a choisi de les transférer sont des delphinariums qui sont tous adhérents à l'association européenne des mammifères marins. Donc on était sûr que dans ces delphinariums, nos dauphins auraient les très bonnes conditions d'accueil. L'autre solution qui avait été proposée par les associations, c'était des sanctuaires. Nous avons d'ailleurs écouté ces associations et les projets qu'ils imaginaient. Aucun de ces projets n'était vraiment abouti ou avait des perspectives d'aboutir dans un délai raisonnable. Donc la seule solution aujourd'hui, c'était de les transférer dans des delphinariums en Europe où on est sûr que les choses se passent correctement.
Nicolas Kremer au micro RTL d'Arnaud Touchin. Et on retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 3210.
Ça va être intéressant de parler effectivement des droits TV parce que ce que disait votre intervenant est sans doute juste. Le téléspectateur, ce qu'il aimerait, c'est que tout le football soit regroupé sur la même chaîne.
Ce serait plus simple.
Voilà, ça serait plus simple, ça serait moins cher. Ça serait, voilà. Et puis il y a une familiarité, ce qui existait dans le temps d'ailleurs, parce que les gens avaient un rapport avec Canal+ particulier parce qu'ils avaient le sentiment que c'était la chaîne du foot qui télévisait tout le foot. Bon, c'était il y a plus de 10 ans, j'imagine, et puis il y a eu l'arrivée de TPS, RMC, etc., qui a fait qu'il y a multiplication des offres, donc des supports, donc des abonnements, et c'est juste l'enfer, j'imagine, pour celui qui...
Ça coûte très cher.
Et exactement.
Sur le pouvoir.
Donc ça, vous pourrez réagir là-dessus, comme vous pourrez réagir sur la décision d'Emmanuel Macron de ne pas reconfiner. On en a parlé pendant 8 jours, et à l'arrivée, il n'y a pas reconfinement. On parlera également des restaurateurs qui ouvrent leurs portes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourra encore parler de football avec ses supporters qui manifestement sont en délicatesse avec leurs dirigeants. Et puis Barbara Pravi, qu'est-ce que vous en pensez ?
Rien.
Merci. Quand je vous pose une question, généralement vous n'aimez pas donner, vous n'aimez pas donner votre avis.
Donc hein, voilà. Bon. En revanche, j'ai besoin que Louis Baudin fasse la météo. Ça
alors
vous
ça ressemble un peu
pas
à Edith Piaf. Enfin, voilà, voilà, voilà.
Enfin, vous la faites tellement bien.
Monsieur Baudin.
Oui. Moi, je ne vais pas chanter.
Non. Ou alors c'est chantons sous la pluie.
Oui, c'est ça. Oui, ça pourrait aller ensemble d'ailleurs, parce que je pense que si je chante, il va pleuvoir. Donc de la pluie, il y en aura, que je chante ou pas. Notamment dans la moitié sud, un beaucoup de pluie attendue.
étendue de l'Atlantique au Massif central en allant vers les Alpes, puis en plaine, mais neige en montagne, sur les Pyrénées, sur les Alpes à partir de 1500 ou 1600 mètres à peu près. Peut-être quelques rares éclaircies tout de même sur le littoral méditerranéen, mais ailleurs donc beaucoup de nuages, beaucoup de pluie et du vent de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. On frôlera les 90 voire 100 km/h tout au long de l'après-midi. Même chose en montagne. Puis dans la moitié nord, c'est à peine mieux parce qu'il y aura là aussi un temps totalement gris, peu ou pas d'éclaircies du tout de l'après-midi, mais les averses seront un tout petit peu plus dispersées. Côté température, alors là, ça reste relativement doux pour la période. 6 à 9 degrés au nord de la Seine et dans le nord-est. 11 à 12 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Et de 12 à 15, 16 degrés dans le sud. 17 degrés même parfois près de la Méditerranée.
Et demain, même programme ?
Ah, je regarde la carte. Et oui, c'est un peu la même chose.
Et pas terrible votre carte.
Non, c'est pas terrible mes cartes en ce moment. Avec des nuages, de la pluie, de la neige, toujours un risque d'avalanche, des risques d'inondation dans le sud-ouest, au nord de la Seine, autour du Massif central, du vent fort cette fois-ci dans la moitié nord. Un peu plus de soleil quand même entre les Pyrénées et la Méditerranée par rapport à aujourd'hui. Puis côté température, ça reste très doux. Pas de gelée le matin. Et l'après-midi, écoutez bien, 11 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 dans la moitié sud.
Grande douceur. Oui, Pascal.
Mais pluie.
J'ai appris ce matin que c'est Yves Cadvy qui disait ça, que quoi qu'il arrive en ce moment, notre ami est content puisque les nappes phréatiques sont...
C'est, ouais, ça,
c'est presque trop parce que maintenant, elles saturent. Donc on l'a dérogé en surface, la Garonne, la Seine.
La Seine commence à monter dangereusement.
Donc la sécheresse est oubliée.
Oui.
Allez, on fait une petite pause. RTL.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le confinement n'a pas eu lieu. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Bonjour Christophe.
Bonjour Pascal.
Bonne décision ou pas ?
Bonne décision si elle est maintenue, si c'est pas pour reconfiner dans 8 jours.
Eh bien, on va développer cette idée. Christelle, le rappel des titres.
Les supporters marseillais qui ont participé aux violents incidents samedi à la Commanderie seront jugés en comparution immédiate tout à l'heure à Marseille. Ils étaient encore 14 ce matin en garde à vue. Le Beauvau de la sécurité, autrement dit un grand débat sur la police, est lancé par Jean Castex. Le Premier ministre demande plus de policiers et gendarmes sur le terrain, plus de rapidité de la justice et des débats en toute lucidité sur les violences policières et sur le racisme. Pfizer et BioNTech fourniront jusqu'à 75 millions de doses supplémentaires à l'Union européenne au deuxième trimestre. Ils comptent augmenter les livraisons à partir de la semaine du 15 février. Une annonce qui intervient le jour d'une réunion au sommet entre les dirigeants allemands et plusieurs groupes pharmaceutiques pour tenter de régler les problèmes de pénurie. Les restaurants qui restent ouverts malgré l'interdiction seront privés du fonds de solidarité pendant un mois ou définitivement en cas de récidive. C'est la sanction annoncée ce matin sur RTL par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.